Le président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo, a réclamé le départ de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo et dénoncé un complot contre le pays lors d'une visite dans l'Est troublé, comme le rapportent donc samedi les médias locaux. Voilà, la MONUSCO, la mission de stabilisation de l'ONU en RDC, elle doit plier les bagages, a-t-il déclaré vendredi à Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, lors d'un meeting devant des militants de l'Union Sacrée, la coalition qui soutient l'action du président, donc Félix Tshisekedi. Bahati s'est plaint de ce que la MONUSCO donc, soit présente depuis 22 ans dans le pays, avec près de 20 000 hommes, actuellement 14 100 casques bleus, contre 19 815 en 2015, sans parvenir à ramener la paix. « Nous-mêmes, nous allons assurer la paix, la sécurité et l'intégrité du territoire », a affirmé l'allié de Tshisekedi et protocolairement le deuxième personnage de l'État en RDC. « Vous le savez, la communauté internationale nous a déçus dernièrement lors du Conseil de sécurité, lorsqu'on n'a pas vu, donc voulu, lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la République démocratique du Congo. Je pense que tout est clair et que le complot est total », a-t-il ajouté. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé le 30 juin donc dernier pour un an le régime de sanctions imposé à la RDC, mais qui est distinct d'un embargo. Ce régime de sanctions oblige en effet Kinshasa à des notifications préalables à l'acquisition d'armement, ce que la RDC estime aller à l'encontre de sa souveraineté et limite, selon elle, sa capacité à combattre donc les groupes armés qui continuent de proliférer, notamment dans l'Est. À la différence de l'ex-président Joseph Kabila qui réclamait régulièrement le départ de la MONUSCO, Tshisekedi a plutôt montré jusqu'à présent une bonne disposition à l'égard de l'ONU. « Je pense qu'il est grand temps que nous-mêmes nous puissions nous assumer. La plus grande arme, c'est notre population. » La détermination de la jeunesse, et je sais qu'avec cet esprit-là, avec un élan de solidarité, de patriotisme, de combativité, nous allons vaincre l'ennemi, quoi qu'il en soit, a encore dit le président du Sénat, en appelant les jeunes à s'engager au sein des forces armées de la RDC. Il a tenu ses propos alors que la RDC est confrontée à des tensions renouvelées avec le Rwanda et l'Ouganda voisins, Kinshasa accusant Kigali de soutenir la rébellion du mouvement du M23. Ce que le Rwanda continue de démentir malgré sa participation à la signature d'un accord de cessez-le-feu avec la RDC. Depuis de nombreuses années, la population congolaise demande le départ de la MONUSCO de son territoire suite à sa passivité dans l'est de la RDC. Et que ce soit la MONUSCO, la MINUSCA en Centrafrique ou encore la MINUSMA au Mali, ces missions de stabilisation de l'ONU ne servent strictement à rien sur le continent africain. Les populations demandent constamment le départ de ces troupes de leur territoire et accusent même l'organe de traiter directement avec les rebelles ou les groupes terroristes, principalement avec la fourniture des armes. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a conclu mercredi sa visite au Tchad, où devant Mahamat Déby, il s'est contenté de relayer visiblement les propos du président français Emmanuel Macron. Mercredi, le président français Macron, donc lors d'un discours adressé à l'armée de son pays, a estimé le retrait de Barkhane du Mali, qu'il dit avoir lui-même décidé, était légitime. Il a en contrepartie qualifié le gouvernement malien d'illégitime et a promis la fin du retrait des forces françaises du Mali avant la fin de l'été. Macron a également annoncé que la France continuera son engagement contre le terrorisme en Afrique après Barkhane, autrement mais résolument, et ses objectifs seraient que les forces françaises soient moins exposées et entretiennent des relations plus intime avec les armées africaines. Ces armées africaines, précise Macron, se limitent actuellement à celles du Niger. Le pays, selon le chef de l'État français, sera un point d'ancrage, un vocabulaire qui, en temps normal, aurait provoqué l'ire d'un pays souverain. Cette fois, le président français peut compter sur la complaisance d'un Bazoum toujours prêt à rendre service à la France. Le même jour, le président du Niger, Mohamed Bazoum, était à son second jour de sa deuxième visite au Tchad depuis le coup d'État de Mahamat Déby. Les deux présidents semblent décidés à soutenir et à être soutenus par Paris. Le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, a dit regretter le retrait du Mali du G5 Sahel. Nous sommes encore optimistes, nous espérons que le Mali revienne sur la décision qu'il a prise, parce que la lutte contre le terrorisme est un combat noble, mais c'est un combat aussi donc qu'un pays ne peut faire seul, explique le dirigeant militaire. Quant à Bazoum, il semble conscient du fait que le G5 Sahel n'était pas un modèle de réussite de ses objectifs, ni sur le plan économique, ni même sur le plan de la sécurité. Pour rappel, le Mali s'est retiré de cette alliance militaire, regroupant également la Mauritanie et le Burkina Faso, principalement afin d'éviter la tutelle française. Mais justement, ce jeudi à Paris, au moment de la commémoration de la prise de la Bastille, l'armée française parade, une armée que l'économiste français Charles Gave estime affaiblie, puisqu'elle aurait, selon lui, à peine plus de 2 jours de munitions. Justement au Niger, nouveau point d'ancrage de Barkhane, la présence militaire française, bien qu'exclusive, sera bien inférieure à celle qui était au Mali. Paris se contentera d'un millier de soldats, de 3 avions, de 6 drones et de 4 à 6 hélicoptères, une présence qui ne dépasse pas le 1/5 de la force de frappe de l'armée tchadienne par exemple. Et justement, Bazoum affirme qu'il est en train de discuter avec Paris pour redéfinir le redéploiement. Donc contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le Niger qui demande une présence française accrue. Un détail qui n'y figure clairement pas dans l'agenda de Macron. En effet, Emmanuel Macron a de son côté précisé que le déploiement français sera revu à la baisse. La guerre revient pleinement, cruellement, sur le sol européen et nous voyons bien qu'il nous faut réévaluer notre ambition, a déclaré Macron. Et il modère ensuite, pas pour faire moins, je vous rassure, mais pour parfois réorienter nos prévisions, savoir tirer tous les enseignements de ce nouveau contexte et pouvoir programmer les prochaines années. Pour résumer, Emmanuel Macron a bien parlé de modérer les ambitions militaires françaises, ce qui ne signifie qu'une chose, pour les États africains comptant sur Paris pour résoudre leur crise sécuritaire, ils auront moins d'aide qu'ils ne l'espèrent. Et dans une symbolique très claire, parmi les pays invités à parader ce 14 juillet aux côtés des troupes françaises, il y a de grands absents. Déjà, aucun pays africain n'a été invité. Mais même en Occident, les premiers partenaires de la France dans le cadre de Barkhane ou de Takuba étaient également aux abonnés absents, notamment l'Allemagne, la Suède, l'Italie, la Belgique ou encore le Portugal. Donc si Bazoum rêve encore d'être cajolé par Paris pendant les quelques 3 années restantes de son mandat, ses ambitions ne semblent pas réciproques. Mahamat Déby, lui, semble plus pragmatique. Le Tchad est un pays souverain, ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par un lobbying qui va nous orienter ou dire que faire de notre pays, a-t-il commenté les pressions du Sénat américain sur N'Djamena. Ce qui, en vue du contexte du point de presse, semble plus dirigé vers Paris, une relation à la « je t'aime, moi non plus », qui n'est pas sans rappeler celle de son père Idriss Déby avec la France. Bazoum a été grandement critiqué par l'opposition qui estime que ses propos au Tchad vis-à-vis de la coopération avec la France manquaient de fermeté. En effet, le président du Niger a déclaré entre le président Mahamat Idriss Déby et moi, il y a une relation très fluide et si nous avons des conseils à donner, je suis sûr que nous n'en ferons pas l'économie. Les pays comme le Niger seront mis à contribution pour apporter un peu les leçons qu'ils ont tirées de leurs expériences, assure Bazoum. Néanmoins, le président nigérian a été visé par 2 tentatives de coup d'État depuis son accès à la présidence. Le Niger est aujourd'hui le pays avec l'indice de développement humain le plus bas du monde, mais il est en plus enclavé dans les 3 régions les plus violentes en Afrique, le nord nigérian et le bassin du Tchad, la zone des 3 frontières et le Sahara libyen. Quel conseil Bazoum peut-il encore donner? Comment éviter d'être renversé après 2 jours de son investiture ou comment devenir le pays où le terrorisme est le plus meurtrier dans le monde selon le Global Terrorism Index 2022. Bazoum a tout de même joué un grand rôle dans la normalisation du coup d'État au Tchad, surtout lorsqu'il entretenait des rapports intimes avec Mahamat Déby tout en attaquant à tour de bras le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Mais aussi, il a été le seul dirigeant du G5 Sahel à rompre la ligne en allant à Paris pour le dernier sommet du G5 Sahel, alors que ses homologues africains se sont contentés d'une participation virtuelle. En tout cas, elle est désormais loin, l'époque où Idriss Déby accusait la France d'avoir unilatéralement organisé la révision constitutionnelle au Tchad, ou plus récemment, lorsque Bazoum s'accroupissait, donc en pleine allocution de Macron, lors du sommet de l'Union Afrique, Union européenne.
Le président français pourrait effectuer une visite officielle à Yaoundé le 26 juillet, puis à Cotonou le lendemain, deux destinations qu'il n'avait pas privilégiées lors de son premier mandat. Quel est l'objectif de Macron durant cette visite? Nous avons contacté Pierre Claver-Cotteau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau, magazine international paraissant à Douala au Cameroun, afin d'en savoir plus sur la situation.
Cameroun, pris depuis des décennies en otage par la misère, et en est un. Lorsque l'on sait que la France, au lendemain de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, en 1918, est pratiquement devenue, le Cameroun est pratiquement devenu une vache à lait de la France, comme d'ailleurs toutes les anciennes colonies de cette puissance colonialiste, quoique le Cameroun ayant été juste placé sous la tutelle de la France par la Société des Nations, l'ancêtre de l'actuelle Organisation des Nations Unies. Ça fait exactement 104 ans que la France est présente au Cameroun, où elle a mis en place un système extrêmement complexe. Je peux même parler d'une certaine ingénierie qui lui permet de s'immiscer directement dans les affaires intérieures de notre pays depuis qu'elle a imposé au premier dirigeant de recréer mémoire la signature de plusieurs accords de coopération en gage de leur accession au pouvoir. Nous pouvons aisément citer parmi ceux-ci le défunt président camerounais Ahmadou Ahidjo. Nous pouvons citer Modibo Keïta qui se rebellera et trouvera la mort, Modibo Keïta du Mali. On pourra citer Oufouet Boigny de Côte d'Ivoire qui restera un fidèle des fidèles de la France et même une espèce de fantoche totalement à la solde de la France et bien d'autres dont les sorts ont été plus ou moins favorables ou non à notre continent ou alors à nos peuples. Pour revenir sur ces accords ont été élaborés de manière très efficace par des experts français de l'époque, dans la perspective justement d'assimiler des pays africains francophones au Dom-Tom, c'est-à-dire territoire et domaine d'outre-mer dépendant de la France, au point où il n'y a que des secteurs et domaines de souveraineté qui y étaient concernés. On peut voir le cas de l'accord de coopération en matière monétaire, dont relève le franc CFA, qui en réalité n'est pas une monnaie, c'est un papier, parce que même le trésor français, tu ne peux pas payer une contravention dans le trésor français avec du franc CFA. Pourtant, c'est une monnaie qui est adossée sur le franc français et depuis peu, et depuis l'existence de l'euro, sur l'euro. Il y a des accords en matière de coopération, un accord qui est d'un cynisme extrême, parce que c'est grâce à cet accord que la France arrive à imbéciliser toute l'élite africaine francophone. Il y a un accord en matière diplomatique qui accorde à la France la prééminence en matière de diplomatie internationale par rapport aux pays africains, donc par rapport aux intérêts de l'Afrique. Il y a un accord de coopération technique qui touche pratiquement tous les domaines et qui empêche l'Afrique de pouvoir identifier les modèles de développement ou alors de pouvoir mettre en place des politiques de développement propres à ses intérêts, qui conviennent en adéquation avec ses intérêts en matière de développement. Il y a également des accords économiques qui sont aussi des accords criminels, qui empêchent l'Afrique de pouvoir, l'Afrique francophone, de pouvoir mener des activités économiques en marge des intérêts de la France. On ne peut ne pas parler des accords militaires, des accords de coopération en matière militaire qui imposent aux pays africains, dont les anciennes colonies africaines, de laisser sous-traiter ou alors de laisser à la France la prééminence dans la gestion de leur sécurité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un mouvement terroriste qui se déclenche dans un pays africain, le pays, l'armée du pays concerné ne peut pas disposer des moyens ou ne peut pas mettre en place une véritable politique de lutte contre l'insécurité. C'est à la France qui revient le privilège de le faire. Or, on se rend compte depuis quelques années que c'est la France également qui finance et qui met en place, qui entretient le terrorisme sur les territoires des États africains. Bon, pour ne citer que ces accords-là, je pense quand même que notre législateur peut être édifié pour comprendre le complot dont l'Afrique francophone est globalement, dont tous les pays d'Afrique francophone sont globalement victimes de la part de la France. Alors, si depuis l'arrivée de la France au Cameroun, les politiques françaises sont restées constantes en ce qui concerne le paternalisme exubérant et de la puissance néocolonialiste vis-à-vis des dirigeants africains et surtout sa volonté de contrôler le jeu politique des États africains pour éviter que des électrons libres puissent accéder au pouvoir, à la magistrature suprême de nos États, dans quel cas ces électrons les empêcheraient de continuer à faire main basse sur nos ressources naturelles et à maintenir nos populations dans la pauvreté. Donc c'est un jeu qui est propre à la France et un jeu vis-à-vis duquel la France ne peut pas se passer pour rester, pour continuer à être considérée comme une puissance mondiale. Bon, l'on comprend donc parfaitement les motivations profondes de Macron, de la visite de Macron au Cameroun, où la France, faut-il le rappeler, a perdu d'énormes parts des marchés face surtout à la concurrence chinoise et d'autres pays qui viennent grappiller de plus en plus ses parts du marché en Afrique francophone. On peut voir les grands chantiers et les grands projets infrastructurels sont en majorité réalisés au Cameroun et en Afrique francophone par des Chinois grâce au financement d'Exim Bank China, alors que la France s'était approprié les retombées de l'éligibilité des pays africains au statut, au régime des pays pauvres très endettés, ce qui a généré une remise de la dette avec des réserves assez importantes des ressources financières qui sont aujourd'hui gérées dans l'Agence française de développement s'est accaparée et gère en autonomie. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il revient donc à la France de choisir les secteurs qui est-ce qu'elle estime être utile ou alors être assimilé à des indices de développement pour nos pays. On a vu par exemple en Côte d'Ivoire des échangeurs, on a vu le métro. Au Cameroun, on a par exemple vu le pont sur le Voury, le deuxième pont sur le Voury. On a vu la pénétrante est, la pénétrante ouest de la ville de Douala, qui ont été financées par l'Agence française de développement. Mais rassurez-vous, ce n'est pas l'argent de la France, c'est l'argent du Cameroun qui est recyclé sous forme de dettes à l'égard du Cameroun, et cet argent ne provient de la remise des dettes au lendemain à la faveur des programmes d'ajustement structurel qui ont été extrêmement sévères et qui ont été extrêmement nocifs envers le Cameroun. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement chaque jour au bord de l'explosion sociale. Et c'est cette période que Macron choisit pour visiter notre pays un peu comme un criminel qui retourne sur le lieu du crime. Quand je parle du lieu de crime, les mots sont bien choisis parce que la déconstruction macroéconomique du Cameroun à la faveur des programmes d'ajustement structurel profite effectivement non pas au Cameroun, mais aux transnationales dont la majorité qui opèrent aujourd'hui au Cameroun sont à capitaux français et qui ont acquis ces concessions des anciennes sociétés d'État, généralement à des francs symboliques. Et généralement également, ces sociétés ne tiennent pas compte du caractère social que ces entreprises représentaient à l'époque où elles étaient sous le régime des sociétés à capitaux publics. Voilà pourquoi, chaque jour, dans le contexte actuel, on assiste à l'explosion des prix, à l'inflation, à l'explosion des prix des ressources de première nécessité, des ressources de première nécessité sur les marchés camerounais, ce qui justement peut entraîner une explosion sociale, parce qu'aujourd'hui on parle du carburant, on peut parler du savon, on peut parler des huiles, de l'huile de palme raffinée, on peut parler même des prestations comme le transport ferroviaire, où justement le Cameroun aurait pu réaliser beaucoup de bénéfices, mais qui désormais ne profite plus au Cameroun. Et par ailleurs, ce qui est d'ailleurs très grave, c'est que c'est le Cameroun qui finance certains chapitres de l'exploitation de ces entreprises prises en otage par les transnationales à capitaux français. Vous comprenez donc l'importance pour Macron et de venir au Cameroun, c'est davantage pour essayer de pérenniser le système, oui, pérenniser le système et essayer, à travers la pression et même le terrorisme, de reconquérir ces parts de marché perdues par la France, par les investisseurs français sur notre pays, et des parts de marché, comme on le disait, je le disais tantôt, qui ont été arrachées par d'autres investisseurs, et notamment les Chinois et autres. Il y a même d'ailleurs certains travaux, certaines sociétés, même iraniennes, des travaux publics, qui opèrent aujourd'hui au Cameroun, malgré le contexte assez difficile, mais qui parviennent quand même à arracher quelques petits marchés, quelques marchés dont l'exécution est soit déjà achevée ou encore en cours. Voilà donc un peu comme dirait l'autre, quoi qu'il en soit, les Camerounais connaissent déjà leur bourreau qui, depuis toujours, joue le rôle de pompier pyromane et son nom est bien connu, c'est la France. C'est donc, à mon avis, c'est cet écheveau que Macron tentera justement c'est cette équation que Macron tentera de venir résoudre, mais dans un contexte où il règne déjà, et ça c'est une certitude, un véritable désamour de l'opinion camerounaise et même de toutes les opinions africaines francophones en majorité vis-à-vis d'une France qui, depuis qu'elle est arrivée en Afrique en général et au Cameroun singulièrement, n'a rien apporté dans l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, puisque, comme je le disais au cours de mon intervention, un peu plus loin, je disais ceci, aucun pays francophone n'est développé, mais allez donc savoir pourquoi aucun pays francophone n'est industrialisé. Simplement parce que les pays francophones ne sont autres que des vaches à lait pour la puissance, pour l'ancienne puissance coloniale devenue une puissance néocolonialiste, et les ressources naturelles de nos pays sont pratiquement pillées sans contrepartie en faveur du développement de nos pays. Et voilà la situation. Et je pense que Macron, c'est vrai, c'est une visite officielle, mais il trouvera en face de lui quand même un peuple camerounais qui sait, qui a déjà collé un visage à la prédation internationale, dont Macron n'est autre que l'un des loups dominants.
Des hommes armés ont tué 6 personnes à un poste de contrôle situé à 70 km à l'est de Bamako, la capitale malienne, a annoncé vendredi soir le ministère de la Sécurité. Le ministère n'a pas précisé qui était responsable de l'attaque qui a eu lieu dans la nuit de jeudi dans une zone du sud-ouest du Mali. 3 des personnes tuées étaient des membres des forces de sécurité et 3 autres étaient des civils, indique le ministère dans un message mis en ligne sans donner plus de détails. Selon l'un des policiers rescapés, après reconstitution des faits, l'attaque a été menée par des professionnels. 3 heures avant les faits, un véhicule s'est présenté devant le poste de contrôle de Zantigila. Le conducteur aurait simulé une panne pour mieux vérifier l'état des lieux et les forces en présence, rapporte RFI. Au Cameroun, l'entreprise chinoise ZTE achève la construction d'un réseau national de télécommunications d'urgence. L'entreprise chinoise des télécommunications ZTE livrera bientôt au Cameroun un réseau national de télécommunications pour la coordination des urgences, a déclaré jeudi la ministre des Postes et Télécommunications Minette Libom-Liliken. S'exprimant sur la radio nationale au lendemain d'une visite sur le site en travaux dans la capitale Yaoundé, elle a fait part de sa satisfaction de constater que les travaux de finition de l'infrastructure de radiocommunication à ressources partagées avancent. Avec le 112 comme numéro vert unique, le réseau à venir permettra aux équipes gouvernementales de coordonner les urgences de manière confidentielle. Ce système devrait permettre d'assurer la prise en charge des appels de détresse provenant de n'importe quel abonné détenteur d'un terminal mobile avec ou sans carte SIM. Au Nigeria, l'aéroport international de fret en construction dans l'état d'Ogun, dans le sud-ouest du pays, deviendra opérationnel d'ici fin 2022, révèle le gouvernement local. Abdelwahid Odoussil, commissaire d'État à l'information et à la stratégie du gouvernement d'Ogun, a indiqué que les travaux concernant le bâtiment administratif, la piste d'atterrissage de 4 km, la tour de contrôle et la caserne de pompiers sont presque achevés. L'aéroport disposera aussi d'un centre d'essai international pour les marchandises prêtes à l'exportation qui sera dédiée au contrôle de conformité aux normes des pays de destination. Selon Abdelwahid Odoussil, des installations sont également prévues pour les formalités et opérations d'usage relatives au transport de passagers. Les groupes armés tchadiens suspendent leur participation au pré-dialogue de Doha. Dans un communiqué de presse, les mouvements armés prenant part au pré-dialogue de Doha annoncent la suspension de leur participation à ces assises. Ils annoncent prendre acte de la nouvelle date du dialogue national inclusif fixé au 20 août qui, selon eux, a été décidé sans aucune consultation préalable ni information directe faisant partie d'un plan préétabli en vue d'exclure certains des politico-militaires et alliés. Ces groupes déclarent qu'ils ont suspendu leur participation au pré-dialogue de Doha afin de permettre aux médiateurs de créer un environnement sain et propice à la poursuite des pourparlers. Ils réitèrent toutefois leur confiance aux médiateurs et disent poursuivre les travaux en vue du parachèvement de leurs documents, les contributions écrites au projet d'accord de paix.